Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie que vous ayez tenu jusqu'à 7h pour être avec nous pour cette table ronde. Comme vous pouvez le constater, c'est une table ronde un peu particulière aux Utopiales. Je vais vous laisser deviner un peu la nature de ce un peu particulière aux Utopiales. Et puis, si quelqu'un n'a pas trouvé la réponse d'ici 8h, on en reparle. Alors, je vais commencer par présenter mes invités. Moi, c'est Estelle Blanquet. Et je suis absolument ravie de vous présenter ce panel absolument extraordinaire. Alors, on va commencer par Sylvie Lainée, qui est à la fois auteure de science-fiction et spécialiste des sciences de l'information et de la communication. Sylvie, qui fait essentiellement des nouvelles, qui sont des petites perles vraiment splendides. Son prochain ouvrage à sortir, ce sera au mois de mars ou d'avril, et qui s'appellera L'Opéra de Chaya. En attendant, vous pouvez trouver ses ouvrages à la fois à la librairie et à ActuSF. Je vous conseille Marouflage, Le Miroir aux Éperluettes, et puis Espace Insécable. Ça fait rêver rien qu'à prononcer ces titres. À ses côtés se trouve Joël Vintrebert.
Non, moi c'est Jean-Pierre Andrevon.
Donc Joël, auteur de science-fiction également, qui a fait des choses assez impressionnantes. Parmi ses derniers ouvrages, je vais citer La Créode, qui vient d'être réédité, ou édité tout court. Il y a Olympiade Truquée, qui vient d'être réédité, pour le coup. Vous avez La Chambre de Sable. Je bavouille toujours sur le titre, donc je préfère m'en assurer avant. Et puis plein d'autres choses encore. On aura l'occasion d'en parler, c'est sûr, puisque je n'ai pas prononcé le nom du titre sur lequel on va pouvoir aussi travailler tout de suite dans cette table ronde. Et puis enfin, le nom du titre. Chut, Georges, on ne fait pas remarquer à celui qui modère qu'il fait des fautes de français. Et puis les 7h. Et puis enfin, Valérie Masson-Delmotte, qui est une spécialiste de climatologie, et plus particulièrement, elle est paléoclimatologue. Et elle va nous aider à explorer demain les jardins tout ensemble. Valérie qui a écrit un ouvrage sur le climat vrai ou faux. Et donc, on va commencer à explorer un peu ensemble tout ça, sachant que pour les courageux qui reviennent demain, nous aurons l'occasion de discuter ensemble une pleine heure du climat, toutes les deux ensemble. Alors, demain les jardins, terraformation de la Terre possiblement, maîtrise du climat complet, contrôle total, c'est des sujets assez utilisés en science-fiction. Si on vous disait demain sur la Terre, maîtrise totale des climats, quelles seraient vos premières impressions? Quelles seraient vos utopies, dystopies, craintes ou joies? Qui se lance? Il en faut une pour commencer. Allez Sylvie.
Bon, tu dis dystopie, ça semble tout de suite assez déplaisant et peu sympathique. Et moi, la première réaction que j'ai, c'est que si l'univers devient déplaisant et peu sympathique, c'est sans doute soi-même qu'il faut changer. Donc moi, ce que ça m'évoque tout de suite, c'est que si la Terre ne convient plus aux humains, il faut changer les humains. C'est sûrement beaucoup plus facile que de terraformer la Terre. Et je pense qu'on commence à avoir des perspectives pour transformer les humains, les modifier génétiquement, les équiper diversement. Donc moi, spontanément, c'est comme ça que je prendrais le problème. Quitte à transformer d'ailleurs toutes les créatures terrestres, tant qu'à faire.
Joël, réaction?
Oui, je pense qu'effectivement, on peut envisager de changer les humains, mais je ne pense pas que ce sera si facile que ça. On aimerait bien. La Terre, on a toute cette perspective de réchauffement climatique qui nous bornait avec rétrécissement des surfaces terrestres habitables, etc. Moi, j'ai énormément apprécié le travail de Vincent Caillebeau que vous avez pu admirer vraisemblablement sur la possibilité que nous pourrions avoir d'utiliser mieux les ressources terrestres, justement, avec des cités beaucoup mieux utilisées, avec ces immeubles jardins, avec ces villes nénuphars flottantes. Donc cette possibilité d'utiliser, puisque nous aurons à l'avenir moins de possibilités de terres utilisables, donc d'utiliser pas forcément des villes sous-marines, mais des villes flottantes qui seraient à la fois des villes où on pourrait habiter en surface, mais également habiter sous la surface. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Pourquoi le jardin ne serait pas flottant? Pas seulement dans ces perspectives qu'il montre de cité tout à fait en hauteur. Moi, je trouve que l'idée de la ville nénuphar est une idée tout à fait intéressante. Et surtout, cette idée de que cette ville nénuphar soit une ville nomade. Ça me paraît tout à fait fascinant. Voilà. Alors, sur le contrôle climatique, il y a beaucoup à dire, mais on va pouvoir y revenir.
Valérie.
À mon tour. Alors, en fait, si on voyage un peu dans le passé, notre espèce, elle a à peu près 200 000 ans. Donc, elle a connu des périodes de climat glaciaire longues. Depuis à peu près 11 000 ans, une période de climat chaud relativement stable. Et puis là, on est parti sur une expérience grandeur nature où on pourrait changer le climat aussi fort qu'entre une période glaciaire et une période chaude, mais en 100 ans. C'est à peu près ça, la gamme des possibles. Et finalement, si pour l'instant, cette expérience grandeur nature qu'on fait, on ne la contrôle pas, elle est absolument involontaire. C'est une conséquence imprévue de notre consommation d'énergie fossile principalement. Alors si on voulait maîtriser le climat, quel climat on voudrait? Est-ce qu'on préférerait un climat glaciaire? Est-ce qu'on préférerait le climat d'il y a quelques siècles qu'en Europe on appelait le petit âge de glace? Si vous habitez dans un pays tropical chaud, c'est peut-être pas désagréable. Est-ce qu'on préfère le climat de nos grands-parents, de nos parents, le nôtre? Est-ce qu'on voudrait s'arrêter au changement de 2020-2040? Quel climat on voudrait? Et je pense que ça ouvre plein de portes sur ce côté-là. Et puis sur la question grand jardin, en fait, moi, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, je pense très profondément inscrit dans notre histoire, on a un rapport de prédateur à notre environnement. Les premiers hommes, quand ils sont arrivés sur de nombreux continents, que ce soit le nord de l'Eurasie, l'Amérique du Nord ou l'Australie, ils ont commencé par chasser ce qui était facile à chasser, la grande faune, ça a disparu. Puis après, ils sont passés à autre chose, il y a eu des progrès technologiques, etc. Et finalement, quelque part, c'est ce qu'on fait, c'est refaire de l'énergie avec du pétrole, du charbon ou du gaz, qui sont non renouvelables. C'est un peu un comportement de prédateur. Et les questions qui se posent sur une planète à 10 milliards d'humains, où on touche un peu du doigt les limites de ces ressources fossiles, c'est changer de logique et passer du comportement de prédateur au comportement de jardiniers qui recyclent le mieux possible. Voilà, donc c'est un petit peu ces réactions que j'avais par rapport à cette thématique de la table ronde.
Et alors la question, une question qui vient directement, effectivement, si on pouvait choisir son climat, vous choisiriez quoi?
Je pense qu'on aurait tous envie qu'il y ait un maximum de régions habitables et agréables. Et ça, scientifiquement, je ne sais pas si c'est envisageable, mais ne serait-ce que la rotation de la Terre fait qu'il y a nécessairement des endroits moins exposés à la chaleur que d'autres. Donc après, ça me paraît devenir très vite une question politique. Quels seront les pays que l'on choisira de rendre plaisants et agréables? Pourquoi pas le continent arctique ou l'Antarctique pourrait devenir des endroits très vivants et très agréables à vivre? Est-ce qu'on est prêt à abandonner le reste au désert ou réciproquement d'ailleurs? Est-ce qu'on peut imaginer, peut-être que Valérie pourra nous dire, s'il est envisageable d'avoir une terre qui soit globalement tempérée?
Alors une terre globalement tempérée, c'est quasiment impossible en fait, parce que simplement la rotation de la Terre, par le transport d'énergie par l'océan et l'atmosphère, on a nécessairement un contraste entre l'équateur et le pôle, simplement par le contraste d'ensoleillement, selon les régions. Et d'ailleurs, plus on rajoute des gaz à effet de serre, plus on atténue finalement ce contraste, c'est-à-dire on réchauffe beaucoup plus les pôles que les régions équatoriales. Et en même temps, ce réchauffement des régions équatoriales, il est vraiment exceptionnel parce qu'elles ont eu des températures finalement peu variables au cours du temps. Donc un tout petit changement est finalement beaucoup plus inhabituel en termes de température dans les régions équatoriales. Et puis sur cette question de est-ce qu'un climat tempéré serait un climat idéal, je pense que si vous posez la question à des Touaregs ou si vous posez la question à des Inuits, ils n'auront pas la même réponse. Et j'ai d'ailleurs souvenir d'une conférence sur l'atmosphère, une conférence scientifique l'été dernier. On a eu une session de discussion sur la géo-ingénierie, puisque c'est un sujet qui est mis à l'ordre du jour par un certain nombre d'acteurs économiques ou industriels. Et donc, il y avait une ONG qui présentait un projet de préserver des conditions polaires en Arctique par un certain nombre de méthodes diverses et variées. Et il y avait des Inuits qui étaient présents, des scientifiques Inuits, qui, eux, revendiquaient le droit au changement, justement. Le droit de ne pas garder des conditions polaires rigoureuses, et puis le droit de poursuivre l'expérience telle qu'elle est partie. Donc c'est intéressant de voir justement ce jeu d'acteurs où chacun en fait soit est attaché au climat qu'il a connu, en gros, ou que ses parents ont connu, ou bien à une culture qui le prépare à l'adaptation au changement, plus profondément.
Joël ? Oui, non, moi je pensais exactement ça. Si vous demandez à un Inuit où est-ce qu'il a envie de vivre, peut-être il n'a pas du tout envie de vivre dans un climat tempéré, ou à quelqu'un qui vit à l'équateur où il a envie de vivre, peut-être il n'a pas du tout envie de vivre dans un climat tempéré. Donc ça dépend évidemment de votre culture ou de votre adaptation au changement. Voilà. Et peut-être vous avez au contraire très envie de changer. Voilà. Tout dépend finalement. Moi je crois que tu ne peux pas avoir quelque chose d'univoque. C'est impossible. Si tu prends toute une catégorie, justement pas une catégorie de population, mais si tu prends le monde entier, tu vas pas trouver tous les gens dans le monde entier qui vont avoir envie de vivre au même endroit, avec le même climat, ou alors ça serait très extraordinaire. Ils seraient formatés de la même façon. Et alors là, j'ai peur. J'ai l'impression justement d'être dans une dystopie.
On peut avoir confiance dans le fait que les humains sont extrêmement adaptables et très vite, et qu'à l'intérieur d'une vie, on peut changer complètement d'environnement, mais d'une génération à l'autre, de manière encore plus flagrante. Donc, je pense que ce que j'ai dit de manière un peu provocante au début, fondamentalement, c'est quand même, si on n'aide pas l'adaptation, de toute façon, on a de grandes capacités à se transformer, à transformer nos envies et nos attentes. Donc, ça, c'est un facteur d'optimisme. Est-ce qu'on considère actuellement comme un environnement détérioré ? Est-ce que peut-être que l'adaptation, un jour, nous fera apprécier de nous baigner dans des pluies acides et de respirer un air chargé en gaz carbonique ? Je ne sais pas, moi, je suis une fondamentale optimiste. Mais peut-être que notre équilibre biologique peut très légèrement muter pour s'adapter. C'est là-dessus que je suis en train de travailler pour ma prochaine nouvelle. Donc,
je repense à un livre qui était tout à fait effrayant, qu'avait publié Gérard Klein, qui s'appelait « Ciel brûlant de minuit » de Robert Silvermer, qui nous montrait un univers où effectivement les humains s'adaptent. Ils ont réussi à s'adapter, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant, voilà. Prions de nous ne le connaîtrons pas, mais que nos descendants ne connaissent jamais un monde tel que celui-là et que nous réussissions à transformer la terre en jardin, fût-ce au prix d'une dystopie.
Et est-ce qu'on a une chance que ça devienne une utopie, un contrôle global de la planète?
Pourquoi pas? On peut rêver. On peut rêver à ce que effectivement on arrive à avoir un gouvernement global et une gestion des ressources terrestres, que effectivement après un certain nombre les déviances qu'on a connues jusqu'à maintenant, ce que disait Valérie sur la possibilité d'une meilleure utilisation je reviens encore à Vincent Caillebeau parce que c'était très intéressant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont suivi la conférence sur la bio. Attendez, c'est la bio. La bio. Hein ? sur le biomimétisme. Voilà, c'est ça. Biomimétisme, bioclimatisme. Et donc, ce qu'il montrait avec ces immeubles et la possibilité, effectivement, de, au lieu de brûler du carburant fossile, etc., d'avoir toute une utilisation avec un recyclage complet des effluents, avoir des jardins d'un côté, d'avoir, on va pas s'étendre là-dessus, mais si, avoir la possibilité effectivement de ne plus gaspiller les ressources et puis de ne plus excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée, de ne plus se retrouver finalement en culotte courte, quoi, comme on est aujourd'hui, enfin comme on va se retrouver à court terme. Voilà. Donc excusez-moi d'utiliser des mots un petit peu courts, mais voilà. Donc meilleure utilisation des ressources naturelles, finalement, donc voilà.
Il y a Estelle qui nous pose la question des utopies. Et moi, j'avoue que cette question d'un monde utopique me laisse toujours un peu perplexe parce que j'ai l'impression qu'on imagine toujours des utopies passéistes. Et ça me paraît un oxymore absolu. Je ne vois pas comment on peut bâtir une utopie ou un projet ou un rêve en n'ayant pas d'autre objectif que de revenir à un état antérieur. Ce n'est pas stimulant pour l'esprit. Donc, de la même manière... La grande difficulté des utopies, et là je n'ose pas regarder Gérard Klein qui a beaucoup réfléchi à la question, mais le gros problème des utopies, c'est que si elles sont satisfaisantes, elles sont stables. Et si elles sont stables, elles sont figées. Et si elles sont figées, elles deviennent très vite totalitaires et l'espace de liberté que l'on y aura à disposition a tendance à se réduire. Donc moi j'aimerais qu'on invente des utopies qui nous emmènent vers un avenir différent de ce qu'était le prétendument Éden des premiers âges, auquel personnellement je ne crois pas du tout en tant qu'Éden.
Et tu le verrais comment, ce futur monde ?
Ah mais non, mais il reste à inventer, justement. Je pense que les auteurs de science-fiction ont beaucoup de choses à faire dans ce domaine, parce qu'on ne s'y est pas encore lancé, que si on... Et puis, on n'est pas forcément obligé d'inventer des mondes totalement crédibles et démontables jusqu'au dernier boulon. Mais j'aimerais que collectivement, on ait un projet d'aller vers un environnement un petit peu différent de celui qui existe et qui reste à explorer. On ne sait pas si on va explorer prochainement d'autres mondes. Eh bien, laisser le nôtre évoluer et changer, c'est une autre forme d'exploration de quelque chose qui est à notre portée. Et je trouve le défi intellectuellement très stimulant.
Valérie ?
Oui, en fait, c'est cet exercice en fait, qui consiste à se projeter vers l'avenir, on le fait en permanence en ce qui concerne l'évolution future du climat, et on le fait avec des scénarios, c'est-à-dire il y a des scénarios de poursuite du développement sur le schéma actuel, et puis donc des émissions croissantes de gaz à effet de serre, et dans ce cas-là, un réchauffement qui pourrait être de l'ordre de 4 degrés d'ici à 2100 et qui se poursuivrait au-delà. Et pour donner un ordre de grandeur des changements possibles, le niveau des mers aujourd'hui monte de 3 mm par an. Dans ce scénario haut, il monterait au maximum d'environ 1 mètre d'ici à 2100. Mais en 2100, ce serait un rythme moyen de montée des mers de 8 à 15 mm par an, c'est-à-dire 3 ou 5 fois plus vite qu'aujourd'hui. C'est vraiment une accélération attendue. Et puis à l'inverse, il y a d'autres scénarios qui sont des scénarios de maîtrise à horizon 10-20 ans des émissions globales de gaz à effet de serre, ce qui reste à inventer, hein, la manière de le faire, je pense. En termes de transformation profonde de notre société, ça n'est pas écrit. Et même d'émissions négatives de gaz à effet de serre après 2050. Alors la manière de faire ça, c'est pareil, n'est pas écrite. Mais ça veut dire, au lieu de l'émettre, on le stocke de différentes façons, que ce soit par l'usage des sols, que ce soit par des technologies qui ne sont pas encore exploitées aujourd'hui. Et dans ce cas-là, on arriverait à garder une gamme de variations du climat autour de moins de 2 degrés par rapport au climat pré-industriel, ce qui est à peu près le climat qui a permis l'émergence de nos civilisations. Et c'est l'objectif que se sont fixés les gouvernements sans vraiment définir la manière d'y parvenir, je crois. Et on peut aussi imaginer ce qu'il se passerait si on avait, par exemple, quelques éruptions volcaniques majeures. Ça fait aussi partie de l'aléa. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1991, le volcan Pinatubo. Ça a été un cas d'école pour les climatologues parce qu'on a pu l'observer par satellite, décortiquer la manière dont ça agissait. Et puis on a des exemples plus anciens, par exemple le Tambora en 1815, ce qu'on a appelé par la suite l'année sans été, tellement les conditions météorologiques ont été rigoureuses. Que se passerait-il si on avait ce type de situation qui se produise dans un monde à 10 milliards d'humains? Quelles conséquences sur le prix des matières premières agricoles? Quelles conséquences sociales, etc.? Ça fait partie des choses qu'on essaie de regarder en tant que climatologue, d'une manière un peu théorique, mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions sur la manière dont on regarde cette petite planète et tous ses habitants, leurs interactions multiples, et puis leur réaction à l'aléa naturel, à l'éruption volcanique, ou finalement, et je pense que c'est ça qui est nouveau, la manière dont les activités humaines perturbent elles-mêmes ce système. Autant l'aléa, il a toujours fait partie des conditions limites, mais finalement, le fait de changer le climat, de rajouter des gaz à effet de serre, ça veut dire que la canicule qui se serait produite par l'aléa météorologique, elle aura une intensité plus grande. Ou la forte précipitation liée à un ouragan, elle peut avoir une intensité plus grande. Donc on renforce quelque part l'aléa, ou l'intensité de l'aléa. Et donc, sur la surface de cette planète, comment on gère cet effet-là? Comment on gère, d'un point de vue presque moral, ce qu'on appelle jusqu'à présent des catastrophes naturelles, mais dont l'intensité peut être renforcée? Comment on fait en sorte d'assurer les besoins vitaux des 7 milliards d'humains d'aujourd'hui, probablement 10 demain? Comment on gère le fait que nos actions, elles ont des conséquences quasiment irréversibles, ne serait-ce que par la durée de vie de certains gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone dans l'atmosphère? Donc 20% de ce qu'on met aujourd'hui dans l'atmosphère, ça aura encore un effet dans 1000 ans. C'est quelque chose qu'on ne mesure pas vraiment. C'est quelque chose pour lequel on ne paye pas, d'ailleurs, pour ces effets à long terme. Et ça fait partie de ces questions sur la manière de partager, finalement, à la fois aujourd'hui et puis dans le long terme, nos actions sur l'environnement global.
Moi, la question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce que les climatologues lisent les auteurs de science-fiction qui se sont projetés sur ce genre de scénario? Alors, les scénarios, tu parlais des scénarios du GIEC, mais les auteurs de science-fiction se sont amusés énormément avec des scénarios plus, sans doute plus catastrophiques ou plus extrêmes. Est-ce que ces scénarios sont assimilés, sont lus, sont discutés? Comment ça se passe? Une réunion du GIEC, typiquement?
Alors, d'abord sur l'interaction imagination, je dirais, ou création et puis science, je pense qu'il y a une imprégnation réciproque, vraiment. Je peux vous raconter quelque chose d'assez drôle. Dernier forage dans les glaces profondes du Groenland, donc on est à Nem, nord-ouest du Groenland, 77 degrés nord, 2500 mètres d'altitude. On est des scientifiques de 18 pays différents et vous savez ce qu'on projette un soir pour rire?
Alors...
Quel film? Le jour d'après, évidemment. Donc, je veux dire, c'est une imprégnation réciproque et en même temps, il y a aussi une forme de frustration, je dirais, dans la mesure où finalement, pour essayer de transmettre nos connaissances vers le grand public, il y a un tas de scénarios catastrophes imaginaires. Il y a ce qu'on calcule, qui semble raisonnable, basé sur des lois physiques, la connaissance du système. Et puis, c'est très difficile, je pense, pour tout un chacun de faire la part des choses entre ce qui est... une exploration de scénarios avec la prudence et la précision liée au calcul, la modélisation du climat, etc. Puis en même temps, les œuvres de fiction. Il y a tout un tas de scénarios d'emballement qui existent, et en l'état de nos connaissances, on ne les simule pas, en fait. Donc on ne simule pas de Terre qui devient comme Vénus, ou on ne simule pas, à horizon 2100, d'arrêt brutal des courants marins.
Et on ne simule pas non plus une maîtrise totale du climat.
Alors, on essaie d'explorer... Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est dans l'autre sens. On a essayé d'explorer, de manière très préliminaire, d'ailleurs, ce que pourraient être des solutions de géo-ingénierie. Donc, une des idées, par exemple, c'est compenser l'impact des gaz à effet de serre en ensemençant l'atmosphère en petites particules pour imiter une éruption volcanique et donc masquer une partie du rayonnement solaire. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait compenser une partie du réchauffement, pas parfaitement, parce que l'effet de serre va jouer la nuit, va jouer l'hiver, et si vous interceptez l'énergie solaire, ça va jouer différemment selon les latitudes ou les saisons. Quand vous rajoutez de l'effet de serre, vous allez avoir une atmosphère qui, globalement, pourra contenir plus d'humidité. Si vous interceptez le rayonnement solaire, c'est l'inverse. Vous allez sécher l'atmosphère, vous allez affaiblir, par exemple, les circulations de mousson. Et puis, en même temps, ces petites particules qu'on met dans l'atmosphère, si on le faisait, elles auraient une durée de vie courte, hein, 2-3 ans maximum. Et donc, en gros, vous continuez à émettre des gaz à effet de serre et puis vous masquez leur effet. Et, vous vous condamnez à poursuivre cette action indéfiniment, parce que si vous arrêtiez de mettre ces petites particules dans l'atmosphère, le climat, en fait, en 10-15 ans, s'ajusterait aux gaz à effet de serre qui sont présents dans l'atmosphère. Et donc, quelque part, on s'exposerait par une volonté de maîtrise du climat à un risque de changement encore plus violent que si on ne le faisait pas, en cas d'arrêt. Donc ça pose encore plus de questions, sans parler des dimensions, je dirais, de risque, ne serait-ce que d'assurance, par exemple, liées à toute action délibérée pour manipuler le climat d'un pays à l'autre, par exemple. Donc ça fait partie des choses que la communauté, disons, des scientifiques du climat débat. Faut-il ou non étudier ce type de scénario ? Et compte tenu des investissements, je dirais, économiques qui se font déjà, en particulier par des grands groupes industriels, je pense que de nombreux scientifiques simulent ce que pourraient être ces actions-là pour fournir des éléments à disposition de la société dans ses choix. Donc c'est juste des éléments à disposition. Et puis pour terminer sur le GIEC, comment se passe une réunion du GIEC ? Donc c'est juste un travail de synthèse de l'état des connaissances scientifiques par des auteurs qui sont renouvelés d'un rapport à l'autre. Donc c'est un travail collectif qui est, je pense, assez unique en termes de, je sais pas comment le dire, de coopération, je dirais, entre ceux qui sont choisis pour rédiger le rapport et tout le reste de la communauté scientifique qui apporte ses critiques, qui améliore la qualité du rapport. Et puis après, il y a cet espace d'interaction science-politique très particulier où le résumé pour décideurs de 20 pages est approuvé mot par mot par les gouvernements et par les représentants des gouvernements. Et je dois dire que parfois, ça ressemble à un mauvais roman, au sens où certains gouvernements se comportent exactement comme vous attendez qu'ils se comportent. Par exemple, l'Arabie saoudite qui insiste lourdement pour qu'on écrive très vite que les sciences du climat reposent sur des hypothèses et non pas des observations. Ou la Chine qui bloque dès qu'on essaye d'écrire quoi que ce soit qui puisse être utilisé pour des accords contraignants. C'est-à-dire toute conclusion qui est liée à, par exemple, un changement de tant de degrés au-dessus du climat pré-industriel n'a pas pu rester, parce que c'était trop proche des termes utilisés par les diplomates dans leurs négociations sur le climat. Et donc il y a presque une volonté de certains pays d'affaiblir certaines conclusions scientifiques, ou en tout cas de les mettre vraiment à part des points qui font l'objet des négociations contraignantes internationales sur le climat. Voilà.
Parce que ça les contraindrait.
Parce qu'ils pourraient se voir contraints par un constat scientifique accepté par tous.
Là, on est vraiment sur le vif de, enfin, sur la recherche effectivement d'une limitation de l'évolution du climat. Enfin, on est un peu dans cette direction.
On est plutôt sur quels sont les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, en gros, hein, compatibles avec les objectifs que se sont fixés eux-mêmes les gouvernements.
Oui.
Parce que les scientifiques sont pas prescripteurs en la matière, ils font juste une expertise. Et puis après, c'est aux politiques de faire des choix et de les assumer. Ou d'assumer le renoncement à un certain nombre d'objectifs parfois irréalistes affichés.
Donc les scénarios sont fixés d'une façon politique, d'une certaine façon. On se fixe tel objectif pour la population ou tel objectif pour une
Les politiques climatiques, c'est-à-dire par exemple l'objectif de l'Union européenne de 20% de moins d'émissions de CO2 à horizon 2020, c'est un choix politique. Ou l'objectif d'autres pays de ne pas respecter aucun accord contraignant, on peut parler du Canada ou des États-Unis ou d'autres, c'est un choix politique.
Et l'adaptation de l'être humain à un changement climatique ?
Mais je vois que le problème essentiel étant apparemment l'augmentation des gaz à effet de serre, il y a quelque chose dont on ne parle pas, et je ne sais pas si je délire complètement, mais il me semble avoir lu un jour que il était peut-être possible d'envisager de faire évoluer des bactéries ou des algues microscopiques de manière à ce qu'ils absorbent une partie de ces gaz à effet de serre. Est-ce que ce n'est pas une voie qui pourrait transformer complètement la nature du problème telle qu'on se la pose à l'heure actuelle ? C'est évident que l'augmentation des gaz à effet de serre n'est pas le seul problème qui va se poser à notre planète et à l'humanité dans les décennies qui viennent. Mais si c'est le plus urgent, il est peut-être urgent aussi d'essayer de l'aborder avec une autre approche que celle qui consiste simplement à réduire, puisque j'entendais Valérie dans une autre table ronde nous dire que le gros problème de ces gaz, c'est qu'ils se cumulent et que de toute façon, on a déjà atteint un niveau critique de par tout ce qui s'est empilé au cours des années antérieures. Donc voilà pourquoi ne pas attaquer radicalement le problème sous un autre angle et essayer de le grignoter de l'intérieur.
Mais il y a des algues, il y a des bétons, il y a toute une recherche autour de ça. Donc de toute façon, ça se produira et à relativement court terme de toute façon. Je crois que la recherche existe déjà.
C'est optimiste ça. Moi j'aime bien qu'on ne parle pas toujours d'écologie d'une manière catastrophique.
On peut être relativement optimiste à ce niveau-là.
Et inventif, oui.
Et quant à la capacité de l'humain à se transformer et à bouffer du CO2, je pense que oui.
Je pense bien que
l'humain est éminemment transformable.
On parle de terraformation de la Terre. Si on s'amuse un peu à jouer avec tout ça, avec des bactéries ou d'autres choses de ce style, ça vous ne ferait pas peur qu'on tente directement l'expérience sur la Terre ou vous vous diriez on va peut-être tester ailleurs avant de s'amuser à faire ça sur la Terre, parce qu'on n'en a qu'une de Terre.
En même temps, ailleurs, on part de beaucoup plus loin. Et le travail à faire s'annonce beaucoup plus ample que les petits réajustements dont nous avons besoin. Donc,
en même temps, d'un côté, il y a 10 milliards d'êtres humains. De l'autre côté, il n'y en a pas.
Ah oui, mais on a des tas de laboratoires à haut risque. À Lyon, on en a un en plein centre-ville. Sur lesquels on fait des expérimentations de nouveaux virus. Bon, on a déjà accepté de prendre des risques collectivement d'un tas de sortes. Donc, une bactérie qui dévorerait le dioxyde de carbone, oui, je crois que c'est un risque qu'on pourrait prendre collectivement. S'il dévore le plastique en même temps, eh bien, on inventera autre chose.
Oui, parce que la terraformation de Mars, c'est quand même pas pour demain, quoi.
Mais la question qu'on pourrait se poser typiquement, là, enfin, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ce serait vraiment plus difficile et est-ce que ce serait pas, pour le coup, moins risqué de jouer aux apprentis sorciers d'abord sur Mars avant de jouer sur la Terre ? Enfin, on balance des particules dans l'atmosphère, ce genre de choses. Une fois que c'est fait, c'est fait. Elles sont là.
Déjà, il y a une atmosphère sur Terre.
Oui, sur Mars aussi.
Oui, mais attends, Sylvie a raison. Sur Terre, il s'agit de réajustement. Voilà. Donc, on peut jouer aux apprentis sorciers, mais voilà, jusqu'où va-t-on aller ? C'est vrai que, bon, quelquefois.
Valérie, tu en passes quoi ?
Alors, en fait, c'est vrai que ça inspire pas mal de recherches technologiques. Le fait de pouvoir trouver une solution à ce problème sans changer notre mode de vie quelque part, hein, c'est un peu l'idée. Et donc, par exemple, il y a eu l'idée à un moment donné qu'une partie du problème pouvait être réglée en fertilisant les océans en fer pour stimuler la photosynthèse de certaines algues qui elles-mêmes deviendraient des puits de carbone à travers leur sédimentation, etc. Et une des difficultés est que si vous stimulez la production de plancton, des blooms de plancton, vous en avez certains qui vont absorber du CO2, puis d'autres qui peuvent rejeter d'autres composés qui sont eux-mêmes parfois des super gaz à effet de serre. Et donc, on voit qu'on va toucher à des équilibres assez fragiles et finalement assez mal connus. Dès qu'on touche, je pense, à cette chaîne trophique et aux vivants, il y a beaucoup de questions qui sont posées. De même que le fait d'acidifier les océans, ce qui est aussi une des conséquences des émissions de dioxyde de carbone. Donc on va agir sur les écosystèmes marins d'une manière assez complexe, c'est-à-dire que finalement les espèces les plus anciennes, elles se sont développées à des moments où les océans ont été parfois plus acides, donc elles ont une capacité d'adaptation qui est en fait plus grande probablement que des espèces plus complexes, plus récentes, qui n'ont jamais subi ce type de situation. Donc il y a beaucoup de travaux en cours justement pour voir où sont les voies d'adaptation, où sont les résiliences aussi de ces systèmes. Et puis également des techniques pour essayer d'imiter ces systèmes vivants, par exemple pour la calcification, bon, comme les huîtres, hein, la formation de carbonate par un certain nombre d'espèces vivantes, essayer d'accélérer ça pour finalement stocker le CO2, non pas sous forme gazeuse, non pas sous forme de matière organique, mais sous forme de carbonate de calcium, de la craie, quoi, qui serait stockable de manière assez confortable. J'ai même vu passer récemment un article scientifique qui disait que le meilleur endroit pour stocker le CO2, ce serait l'Antarctique. Donc on pourrait le liquéfier finalement, hein, en se mettant dans l'endroit le plus froid du monde. Et puis le stockeur, c'est pas exactement décrit de quelle manière on pourrait le faire, avec en produisant l'énergie nécessaire par des éoliennes alimentées par les vents très forts sur la côte antarctique. Donc vous voyez qu'il y a une inspiration, hein, par certains scientifiques ou d'une littérature qui existe aussi. Et là se posent d'autres questions. Évidemment, l'Antarctique aujourd'hui est une terre de paix et de science. Aucune exploitation industrielle n'y est autorisée au titre d'un traité qui a été renouvelé pour une trentaine d'années. Et donc se pose la question effectivement de la faisabilité de ce type d'idée, l'ordre de grandeur qu'elle pourrait amener à, comme action en termes, par exemple, de dioxyde de carbone. Dans ce cas-là, ce serait l'équivalent de 1%, je pense, des émissions mondiales, je pense que l'ordre de grandeur, hein, qui était discuté, et puis leur faisabilité économique et leur acceptabilité également. Donc ça fait aussi partie des choses récentes, hein, que j'ai vu passer, où, avec différents regards, certains essaient de trouver une solution pour finalement limiter notre expérience grandeur nature.
À propos de jardin et d'équilibre, justement, il y a le problème actuel dont vous avez peut-être entendu parler, parce que ça devient assez crucial apparemment, c'est notre classique ver de terre attaqué par le platelminthe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais ce platelminthe qui est arrivé apparemment de Nouvelle-Zélande, et ça devient assez catastrophique en Angleterre, et c'est sans doute arrivé chez nous par l'Angleterre et par les plantes en pot. Et donc ce platelminthe qui colonise nos jardins, c'est une vraie catastrophe. Donc c'est un ver, et il s'attaque à notre ver de terre classique et il le dévore. Voilà. Et donc le ver de terre n'a aucune défense contre ce platelminthe. Ce platelminthe se reproduit par voie sexuée et se reproduit également en se séparant de sa partie postérieure, voilà. Donc il donne naissance à un nombre d'individus absolument incroyable. Donc très rapidement, il va liquider le ver de terre et on va se retrouver avec des terres stériles. Donc en Angleterre, ça devient très très préoccupant.
Parce qu'apparemment, il n'aère pas la terre comme
il
le faisait le long.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il n'aère pas la terre. Alors, en Nouvelle-Zélande, les vers de terre, puisque ça existe depuis des temps immémoriaux, ce platelminthe, la coexistence du platelminthe et du vers de terre en Nouvelle-Zélande, donc il y a coexistence. Hein, le vers de terre néo-zélandais se défend contre le platelminthe, mais nos petits vers de terre européens n'ont pas du tout ces résistances. Ils se font effectivement bouffer, et donc à terme, s'il n'y a pas quelque chose qui est trouvé, on va se retrouver avec des jardins stériles.
Et pourquoi tout le monde me regarde?
Tout ça pour dire qu'effectivement ces équilibres sont extrêmement fragiles. Et dès qu'on touche à quelque chose de la chaîne, c'est...
Oui, on peut y toucher, donc, à la fois par l'introduction d'espèces à travers la mondialisation des échanges. Et puis, il y a une autre manière de mettre en mouvement ces systèmes, c'est à travers un climat qui change vite. Et donc, certains travaux récents montrent des déplacements vers le nord d'un certain nombre d'espèces, marines ou terrestres, mais aussi d'un certain nombre de pathogènes pour les cultures ou pour les forêts. Et plus les changements sont rapides, plus on entraîne des bouleversements sur des écosystèmes qui ne sont pas encore capables finalement de s'autoréguler. À terme, évidemment, on a un équilibre qui se fait entre prédateurs et proies, typiquement. Hein. Mais dans la phase de transition, c'est beaucoup plus difficile à accompagner. Et ça fait partie, évidemment, des effets les plus difficiles à anticiper d'un point de vue précis, localement, d'un climat qui change vite, hein. Et les vitesses de déplacement à terre peuvent être de l'ordre de 80 km par 10 ans, donc quelque chose d'assez rapide en fait, hein. Quand on, ça veut dire en un siècle, on passe du sud au nord de la France, hein, typiquement, pour une espèce donnée dont l'aire de répartition va être limitée par, par les conditions environnementales, les conditions climatiques. Donc ça fait effectivement partie de ce type de bouleversement dont on ne voit que le début, mais qui serait amené à s'accentuer à mesure qu'on a une accélération du changement climatique.
Oui, effectivement, là où on essaie de jouer les apprentis sorciers face à un système extrêmement complexe, il peut se passer des choses désagréables. Mais il semblerait que ce soit le sommet de la chaîne biologique et animale qui soit le plus fragile. On est tout en haut, on est donc probablement les plus vulnérables. Et en même temps, j'ai envie d'être très optimiste, moi, aujourd'hui. Donc, en même temps, on a une grosse chance, c'est qu'on est totalement omnivore. On est vraiment capable de manger des choses très variées ou de transformer les choses les plus inattendues pour les rendre comestibles. Eh bien, moi, ça me rend très optimiste. Je me dis que même s'il y a des légumes qu'on n'arrive plus à faire pousser, même si le climat change, on arrivera toujours à manger quelque chose.
On sent que c'est l'heure du dîner qui approche, en fait.
Et aller sur Mars pour essayer de faire des choses, non, ça ne vous branche pas. Hein.
Pas pour y manger, pour l'instant. Mais oui, si, aller sur Mars, il est probable qu'on va le faire assez rapidement. Il y a eu déjà plusieurs évocations ici du projet Mars One qui devrait, si tout va bien, être réalisé d'ici une dizaine d'années et qui consisterait à envoyer quelques colons sur la planète Mars dans un biodôme dans lequel ils devraient théoriquement vivre en autarcie. Moi, j'ai du mal à imaginer la complexité justement de l'environnement qu'il faudrait créer autour d'eux pour qu'ils puissent produire tout ce qui serait nécessaire, à moins que le projet ne prévoie de les alimenter régulièrement, mais sans doute pas toutes les semaines.
Sans doute pas en légumes frais.
Donc oui, il y en a des projets. J'ai oublié quelle était ta question. Ah oui, Mars. Mais pour l'instant, Mars, c'est pas très accueillant quand même. Il va falloir y faire pas mal de travaux.
Et que nous, on n'a pas trop de chance d'aller vivre sur Mars un jour, quoi. Tu vois ? On peut juste rêver.
Alors oui, vous pouvez rêver, mais surtout, vous avez le moyen extraordinaire qui est celui de faire rêver les autres. Et est-ce que vous envisagez dans vos nouvelles, dans vos romans, d'introduire cette idée, de sensibiliser les gens. Sylvie, tu nous parlais d'adapter l'être humain à son environnement plutôt que l'inverse. Je sais que Joël, tu as créé des mondes jardins. Comment vous, en tant qu'auteur, vous percevez cette... est-ce que vous avez, excusez-moi, plutôt une envie de sensibiliser les gens, d'introduire les gens, d'initier les gens à une nouvelle approche du climat, à une nouvelle approche du monde, d'une façon générale, et de l'impact qu'on peut avoir sur lui.
Ben, c'est pas un désir didactique, mais à partir du moment où, enfin, bon, je sais pas pour Sylvie, je vais pas parler pour elle, mais moi, je me suis beaucoup intéressée à l'utopie. Et justement, j'ai toujours parlé d'utopie ambiguë, parce que je pense que l'utopie n'est intéressante que quand elle est ambiguë, dans la mesure où si une vraie utopie, je rejoins ce que disait Sylvie tout à l'heure, elle a tendance, évidemment, à être stationnaire. Donc, elle n'est intéressante pour moi que quand elle a des côtés justement ambigus qui vont faire que de temps en temps, il va y avoir des dérapages qui vont faire que on va s'interroger sur ce côté ou figé du monde qui a été mis en place ou inégalitaire ou voilà. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est de montrer un contexte complètement différent. Donc ça peut être aussi bien sur un plan social que sur l'installation de la planète, que sur une transformation d'un monde avec une biotechnologie qui a permis que ce monde soit complètement différent de celui qu'on connaît, etc. Ben, c'est ça, c'est très très intéressant pour un auteur à mettre en scène, évidemment. On adore ça. Voilà, créer une société complètement différente où la cellule familiale ne soit pas nucléaire, mais bon, comme je l'ai mis en scène, que ça soit une triade, c'est-à-dire plus du tout un père, une mère, des enfants, mais de sœur à frère, voilà. Donc ça pour moi est montrer comment ça se passe dans cette société. Ça, je trouve
c'est
ça pollen, fascinant.
Hein. C'est pollen.
Ouais, ouais. Et justement, dans ce monde, les cités sont des cités jardins. Les polliniens vivent dans des arbres. Et ce sont des arbres qui sont symbiotiques avec leurs habitants. Voilà. Donc ça, pour donner un exemple.
Bon, moi, je réagis très mal à la question d'Estelle, parce que comme dans ma vraie vie, je suis prof de fac et que je passe mon temps à donner des cours, si j'écris de la science-fiction, c'est sûrement pas pour donner des cours de quoi que ce soit, ni des leçons à personne. Donc,
moi non plus, je ne veux surtout pas donner des leçons, c'est ce qui vient pour ça que j'ai dit, on ne veut pas être didactique.
Oui, je crois qu'on est d'accord. Donc après, je crois que les histoires qu'on invente et qui nous font d'abord plaisir à nous, si elles ont la chance de faire plaisir à d'autres, tant mieux. Mais ce qui est fascinant, c'est le fait qu'on ne sait jamais quelle est la nature du plaisir qu'on va procurer aux autres et ce qu'ils vont y trouver et ce qui va parler à chacun. Et donc ça nous échappe, comme peut-être l'évolution de la biotope, je ne sais pas, mais c'est le plaisir de lâcher dans la nature quelque chose qui va vivre sa vie plurielle de plein de façons selon les gens qu'elle va rencontrer. Donc c'est pas de la didactique, mais maintenant je crois qu'on a aussi vraiment besoin de ces occasions de rencontre où on alimente nos rêves et nos réflexions avec des éléments cohérents, aussi substantiels que possible, quitte après à les laisser dériver, mais avec du vrai matériau.
Il nous reste un quart d'heure. C'est une thématique qui intéresse énormément et j'imagine que vous avez pas mal de questions dans la salle. J'ai bien envie d'ouvrir tout de suite la discussion. Quelles sont les personnes qui voudraient poser une question? Je vois Gérard ici. Est-ce qu'il pourrait y avoir un micro? Merci beaucoup.
Je voulais juste rappeler que quand j'étais jeune, j'étais d'une naïveté absolument insondable et que donc en 1957, je pense à peu près, j'ai publié un roman au Fleuve Noir qui s'appelait « Chirurgien d'une planète » et qui racontait la terraformation de la planète Mars. Je dois dire que j'y crois beaucoup moins aujourd'hui. Et j'ai écrit beaucoup plus récemment une nouvelle qui s'appelle « La serre et l'ombrelle » où j'imaginais qu'on corrige, au moins pour un temps, l'élévation de la température sur Terre grâce à une ombrelle solaire, c'est-à-dire un petit pourcent de la surface suffirait à abaisser, à corriger, au moins temporairement, puisqu'on risquerait de continuer à émettre des gaz à effet de serre. Enfin, ça permettrait de corriger un petit temps les excès climatiques. Je dois dire que, comme économiste, disons, je n'ai pas de connaissances particulières en ce qui concerne la climatologie, mais je suis extrêmement inquiet de ce qui est en train de se passer. Il m'est arrivé, dans un passé déjà, enfin, pas très ancien, mais pas très récent, de fréquenter les milieux administratifs ou politiques, et ça ne m'a pas du tout rassuré.
Georges ?
Oui, moi j'ai juste cité quelques textes de science-fiction sur ce genre de problème. D'abord, un texte non traduit en français de Jack Williamson s'intitule Terraforming Earth et imagine qu'il s'agit de repeupler la planète après le passage d'un astéroïde tueur. Ensuite, il y a un texte dont une partie est parue chez Gérard, qui imagine la Terre 2000 ans après qu'une glaciation artificielle liée à un système d'ombrelles géantes. C'est le texte australien que je ne me rappelle plus le titre, mais tu l'as publié en deux volumes, alors qu'il s'agissait d'un unique roman, et que l'auteur a d'ailleurs publié aux États-Unis après deux autres romans qui prolongeaient. Mais j'arrive plus à me rappeler le titre. Sinon, l'idée des particules qui deviennent folles et qui provoquent une glaciation, je l'ai revue sur l'écran il n'y a pas longtemps, à l'avant-première d'un film qui est maintenant sorti, qui est sorti mercredi dernier. Snowdriver, le transpersonnage, Snowpiercer, pardon.
Merci, Georges.
Oui, moi, je voulais d'abord remercier Sylvie Lenné pour son fondamental optimisme qui va peut-être me guérir de mon insondable pessimisme. Et poser une question à Valérie.
Je confirme, ça fait du bien.
À propos de ces projets fous d'industriels shootés à la cocaïne, peut-être, d'ensemencer l'atmosphère de particules pour réduire ou tenter de réduire l'effet de serre ou d'ensemencer l'océan de fer pour piéger le carbone grâce à des algues ou de mettre des miroirs solaires en orbite ou que sais-je. Quel pourcentage de risque a-t-on de voir ces projets délirants se réaliser, ou est-ce que ça reste que des délires d'industriels fous, ou est-ce que c'est réellement des sujets d'études qui pourraient voir le jour grâce à des financements de puissances forcément occultes et maléfiques?
Donc à ma connaissance, il existe un certain nombre de financements de recherches technologiques sur ces voies-là, en particulier aux États-Unis, au Canada et en Australie. Et je pense que ce qui est intéressant dans le jeu d'acteurs autour du climat, c'est que un certain nombre de think tanks, de groupes de réflexion qui sont d'ailleurs climato-sceptiques, en particulier aux États-Unis, ont pris position avec force en faveur de la recherche de solutions de type géo-ingénierie. Et se plaçant ainsi en position de, entre guillemets, sauveur de l'humanité. Contre une forme d'écologie, une forme de, d'écologie politique qui prône la sobriété, etc. Donc c'est vraiment un jeu d'acteurs très particulier sur cette solution-là. Mais pour revenir sur ce que vous disiez également sur les scénarios de science-fiction et les scénarios de glaciation, je pense que c'est beaucoup plus visuel. Et ça joue beaucoup plus sur un registre de peur du froid. Il me semble que c'est plus difficile d'explorer les scénarios les plus plausibles scientifiquement, qui sont ceux d'un réchauffement de quelques degrés, et de donner corps, de donner chair à la manière dont ils peuvent modifier, avoir un impact sur les activités humaines. Je pense que ça joue sur des peurs... Et du visuel qui est plus puissant, qui sont plus puissants, je dirais, que les scénarios de réchauffement. Et j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure sur la notion d'aller habiter sur Mars, etc. Moi, j'ai eu la chance de partir deux fois sur la calotte du Groenland pendant deux mois et demi, en vase clos, hein, 15 personnes, 30 personnes, et puis des opérations de forage profond très précises. Et le reste de la planète m'a beaucoup manqué, mes proches, mais le reste de la planète aussi. Et ce qui m'a frappé en revenant, c'est que c'est la beauté de ce qui était vert. Pas l'océan pour moi, mais vraiment ce qui était vert et qui m'a le plus manqué. Et c'est également ce que m'ont raconté les collègues russes qui ont hiverné en Antarctique. Certains y ont passé 5 ans sur le site de Vostok. Moi, j'ai aucun doute qu'on peut faire vivre des gens dans un milieu très hostile. Si on considère le centre de l'Antarctique, on a moins 50 degrés en moyenne annuelle. C'est assez proche de ce qu'on peut trouver sur Mars avec d'autres difficultés supplémentaires. Mais j'ai aucun doute que technologiquement, c'est faisable. Par contre, cette espèce de vase clos, et puis cet univers qui est très restreint en termes de couleurs, d'odeurs et de diversité de personnes, c'est assez difficile à l'imaginer pour une vie entière. Voilà.
Ah oui, non, mais j'approuve, je suis absolument d'accord avec tout ce que vient de dire Valérie. Je crois qu'elle nous a rappelé des choses essentielles. Mais c'est vrai que je n'y avais jamais réfléchi, mais pour revenir sur la première partie de ton intervention, c'est vrai que le froid est très télégénique, mais il est peut-être aussi plus... S'il s'agit de montrer un péril et de frapper l'imaginaire, il est peut-être aussi plus facile à écrire et pas seulement à filmer. Parce que par définition, la chaleur, c'est l'aridité. Et l'aridité, c'est peu expressif. Enfin, c'est, alors que le blizzard, la tourmente, la glace, la neige, des tas de consistances, je crois qu'on joue plus facilement avec cet imaginaire-là. Oui, il y a Dune, oui, bien
oui,
sûr.
Oui, c'est pas du tout monochrome. Tous ceux qui sont allés dans le désert te diront tu as des couleurs infinies.
Il y a des très beaux lombriques, d'ailleurs. très
solide. Et la glace, c'est très aride aussi.
et en même temps, un climat qui change, si on ajoute de l'effet de serre, c'est un climat où les contrastes hydrologiques augmentent, c'est-à-dire les régions sèches deviennent plus sèches, mais les régions du nord de l'Europe, les régions arctiques, etc., deviennent plus humides à l'inverse. Donc c'est un monde de contraste sur l'abondance ou la pénurie d'eau.
Il y a d'autres questions dans la salle ? Tout le monde a faim ? Eh bien, dans ce cas-là, on va terminer là. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à nos invités. Et puis, à demain. Merci beaucoup, au revoir.